de suite sur France Culture du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient addiction. Cette semaine, Les combattantes, sortir des violences faites aux femmes, une série de Johanna Bedeau réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Au départ de cette série, il y a une soirée de Nouvel An qui a viré au cauchemar. Il y a aussi une chanson de plus aux paroles d'une brutalité inouïe et des mots qui sont souvent le point de départ de la violence, des mots faits pour humilier. Et puis il y a l'envie de décortiquer ces mécanismes qui détruisent et de redire que le viol est une volonté d'anéantir, voire une arme de guerre. Et surtout, il y a le souhait de donner la parole à ceux qui soignent et bien sûr à celles qui reprennent la main, racontent et récupèrent le contrôle de leur corps et de leur vie. Parce que théoriquement, il y a toujours une fin au cauchemar. Pour commencer, les personnages, des victimes qui trouvent enfin les mots, une psychologue qui cherche les mécanismes de la reconstruction, un médecin qui va à l'essentiel, des soignants qui connaissent leur affaire, des écoutantes et un policier. Ensuite, le décor. Des salles d'attente où l'on ravale ses larmes, des cabinets médicaux où l'on pose les mots, des tables d'examen, des chaises pour soutenir celles qui flanchent et des divans qui ont tout entendu. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est en France, au téléphone, et il faut raconter.
Viol Femme Information, bonjour.
Bonjour. J'ai subi des violences pendant des années sans rien dire.
Et anonyme.
Mon ex-ami m'a laissé 130 messages menaçants sur mon portable.
Avec un Y au début ? D'accord.
C'est pour signaler une fois de plus une menace de mort.
Vous êtes dans quel numéro de département ?
J'ai porté plainte contre mon mari, mais j'ai toujours des sentiments. Mon mari me donne des claques derrière la nuque. J'ai redonné une chance à mon compagnon, mais ça recommence de plus belle. J'ai eu hier une menace par mon mari avec un revolver. Je vous appelle, mais je ne voudrais pas que ça fasse des vagues.
L'agresseur, c'était qui par rapport à...
J'ai atterri aux urgences cette nuit à cause de mon ami. Je suis complètement battue. Je n'en peux plus. J'ai besoin de parler avec quelqu'un. Je voudrais discuter avec vous pour savoir ce qu'il m'arrive.
Après le silence. Johanna Bedeau, Marie-Laure Ciboulet.
Sortir de la violence, c'est grâce à la prise en charge, et la parole y a un rôle extrêmement important. C'est la prise en soin. Et la prise en soin des victimes passe obligatoirement par cet échange, cette relation, et la relation, c'est la parole.
Excusez-moi. Oui, j'écoute. Hein.
Docteur Marc,
oui.
Médecin légiste à l'unité médico-judiciaire de Marne-la-Vallée.
Oui. D'accord, ok, première dame, j'arrive, à tout de suite.
Je fais la première chose qui est assez formelle, qui est de reprendre votre identité, etc. C'est la première fois qu'il y a un dépôt de plainte de votre part ?
Oui.
D'accord. Il y a eu des choses qui se sont passées depuis longtemps, si je comprends bien un petit peu le récit qu'on a ?
Oui.
D'accord. Depuis combien de temps ces histoires durent, ces violences ?
Depuis 3 ans.
Depuis 3 ans, d'accord. Et depuis 3 ans, vous avez déjà eu recours à un médecin ? Vous avez déjà... Non ?
C'est la première fois qu'il me frappe, moi, vraiment.
D'accord. Mmh. C'était quoi avant ?
C'était verbal. C'était beaucoup de crises de jalousie.
D'accord. Des insultes ?
Mmh. Puis il disait que je lui appartenais, que j'étais à lui. Voilà. Il faisait des scènes parce que je parlais avec mes collègues, que je mangeais avec mes collègues, des choses comme ça.
D'accord. Il vous insultait ?
Oui. Quand on se disputait, j'étais toujours une grosse pute, une connasse, une traînée. Va te faire baiser par tous les mecs que tu veux. Voilà tout ce que j'entendais tout le temps.
D'accord. Et ça, c'était véritablement très souvent ?
C'était régulier, c'était pas souvent, mais dès qu'il y avait une grosse dispute, et ben ça finissait toujours comme ça.
D'accord, avec des propos. Il y a eu des menaces ?
Oui, parce qu'en fait on s'est séparés au mois d'avril et il a dit qu'il allait me tuer, que il valait mieux pas que je le croise, parce qu'en fait c'était mon voisin d'en face.
D'accord. Et il y a eu des faits de violence quand vous étiez ensemble, des faits par exemple, je sais pas, d'objets cassés, de...
Ah oui, il a déjà tapé dans les murs plusieurs fois, tapé dans ma voiture, il me retenait souvent les mains pour que je parte pas.
D'accord. Vous avez vécu ensemble ou c'était une relation?
Alors, non, on n'a pas vécu vraiment ensemble puisqu'on était voisins, mais on se voyait tous les jours.
C'était presque comme une vie ensemble. Est-ce qu'il y a eu d'autres types de violences pendant cette relation? Est-ce qu'il vous a imposé des choses? Est-ce qu'il vous a fait faire des choses?
Non, mais une fois, il m'a mis une claque parce que j'avais flirté plus ou moins avec quelqu'un parce qu'on s'était séparés justement à cause de tout ça. À la plage, il aimait pas que je sois en maillot de bain devant tout le monde. Bon.
Donc, il y a déjà eu, en fait, déjà des violences physiques. Cette claque-là, c'est pas...
Oui.
D'accord. Les derniers faits, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me raconter ça un petit peu?
Cet été, je suis retombée sur lui. Il est revenu me parler, tout gentil, etc. Du coup, on s'est beaucoup expliqué, bon... Évidemment, tout est souvent de ma faute. Un jour, il m'avait dit « Dans notre relation, t'es 90% responsable de ce qui se passe et moi 10%. »
C'est voilà. Quand même précis dans ses calculs.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et du coup, après, je l'ai revu plusieurs fois. On a reflirté un peu ensemble pendant 3 semaines. Et puis, j'ai vu qu'il recommençait à redevenir... Enfin, je le sentais pas. J'ai dit « Je me pose trop de questions. Je vois pas l'avenir, en fait. » J'ai pas l'impression que t'es vraiment changé. Et là, il a commencé à péter un câble. Et puis, hier soir...
C'est passé donc hier soir.
Ouais.
D'accord. Et hier soir, qu'est-ce qui s'est passé?
Du coup, il était venu chez moi. Il avait des affaires, un t-shirt, un pot de gel, des conneries en plus. Et il me dit, je veux mes affaires. Moi, je voulais pas parce que j'avais une copine qui était venue. Et je dis, ça peut attendre plus tard, on s'en fout, c'est pas urgent. Il est resté 1h30 devant chez moi à m'appeler pour me faire descendre pour des faux prétextes. Il m'a appelé quasiment 80 fois. Puis après, il est venu à ma porte. Quand il a frappé que je lui ai ouvert, il a voulu rentrer. J'ai pas voulu, je l'ai poussé. Et du coup, après, il m'a étranglé. Il m'a mis une claque. Enfin, bon.
Vous avez étranglé longtemps?
Je sais pas.
Vous avez eu un moment où vous étiez encore consciente ou
Oui, non, j'étais consciente.
Consciente? Gênée pour parler
J'ai super mal à la mâchoire quand je mange.
Vous avez quand même un collier cervical, ouais. Là, une entorse.
J'ai très très mal au cervical.
D'accord. Et ça a été constaté quand vous êtes allée à l'hôpital?
Oui, ils m'ont dit que c'était surtout musculaire. Et c'est comme la mâchoire, j'ai l'impression qu'elle a été décalée parce qu'il m'a mis une claque. Parce que c'est quelqu'un qui fait 1m90 et 100 kg quand même. Donc il m'a mis une claque monumentale et ça m'a retourné la mâchoire. Quoi.
D'accord.
Et sur le coup, j'ai cru qu'elle était cassée.
Vous avez du mal à entendre?
Non, ça va.
Ça ne siffle pas, il n'y a pas de... D'accord.
Par contre, j'ai des fourmillements dans la nuque.
Des fourmillements dans la nuque, d'accord. D'où le fait qu'il y ait ce collier cervical qui vous immobilise. Et là, la police est intervenue, il a été interpellé.
Oui, parce que j'avais ma copine qui était là, qui tout de suite, elle a appelé la police quand il a commencé à...
À être violent.
Voilà.
Bon.
Il a passé la nuit en garde à vue.
Mais... Il a été interpellé, bien. Bah, écoutez, on va faire le bilan des lésions et regarder un petit peu l'ensemble des choses pour... faire ce rapport qui va être envoyé à l'officier de police judiciaire tout de suite. Bon, je vais examiner la dame.
Merci.
Arrive là en urgence, à qui elle s'adresse?
Soit on est prévenu par les services d'urgence, parce qu'ils reçoivent la personne, soit on est prévenu par les services de police qui amènent la personne en urgence, si les traumatismes ne sont pas trop importants, donc on va pouvoir la prendre en charge directement. Et puis on a nos accueillantes qui sont là, des infirmières,
ou des secrétaires du service qui sont habitués à recevoir les personnes, à commencer à prendre un petit peu des éléments d'accueil qui ne sont pas simplement administratifs, parce que ce sont des gens dans une situation de crise. Donc bien sûr, il y a des renseignements administratifs, d'identité, etc. Enfin, toutes les choses qui sont absolument nécessaires. Mais il faut aussi qu'on ait une prise en charge et que la première parole soit une parole apaisante, empathique, pas pleurer avec la personne, c'est pas notre rôle, mais de savoir que là, elle va trouver une aide et donc des gens prêts à la prendre en charge. On sait très bien que les gens vont être dans des situations de stress, ils s'affrontent à la justice, ils sont dans des situations qui sont un peu complexes.
Joël, dites-moi, est-ce que la dame qu'on attend est arrivée ou pas encore? Ok, vous me prévenez sur mon deck quand t'es là. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
Christophe Gesset, commandant de police.
Ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est la difficulté à trouver des mots pour décrire. Et c'est le travail de l'enquêteur, en faisant comprendre à la victime que dans ce bureau, à peu près tout avait été dit sur la nature humaine, en bien et en mal. Donc il n'y avait aucun mot qui serait choquant, qu'il n'y avait aucune description qui puisse l'être. Et tout ça pour faire comprendre à la victime qu'il n'y a rien qui puisse choquer son interlocuteur et quelquefois de la rassurer en lui disant que ça y est, le plus dur était passé. Et après justement, mettre des mots, c'est commencer à comprendre la chose, à l'accepter et puis à la combattre. À combattre et à se préparer au long combat qui suit après. Aider une victime, c'est pas aller lui proposer des mots qu'elle n'aurait pas trouvé elle-même. Alors après, on peut passer par toutes les petites astuces pour l'aider. Donc ça peut passer effectivement par écrire des mots pour ne pas avoir à les prononcer. Donc vous apprenez à suggérer, non pas à orienter, mais à suggérer. Et puis quand vous voyez qu'il y a des vrais blocages sur des descriptions plus précises, plus techniques, pragmatiques, à ce moment-là, vous n'insistez pas. Là où elles comprennent qu'elles sont considérées comme victimes, c'est quand on leur pose des questions techniques et qu'elles comprennent que là, on est dans le bois dur de la constitution d'un dossier criminel dont la finalité est d'aller en cour d'assises pour que l'agresseur soit mis face à ses responsabilités. Et la première... Une question technique, c'est tout simplement quand vous abordez les faits en lui expliquant que, par exemple, quand vous demandez est-ce qu'il y a eu pénétration, c'est pas du voyeurisme, c'est pas un goût sordide pour des détails nauséabonds. Et vous expliquez pourquoi. Parce que la pénétration change la qualification pénale. Et que comme on est dans une démarche criminelle et judiciaire, au final, c'est ça qui va changer la qualification de l'accusation. Quand l'agresseur sera en cour d'assises ou devant un tribunal correctionnel, c'est justement parce qu'on aura déterminé à l'avance tous ces petits détails qui font que ça va alourdir ou alléger, si je puis dire, la qualification.
Là, c'est une patiente que je reçois à 8 heures d'effet.
Isis Anafi, psychologue à l'unité médico-judiciaire de Marne-la-Vallée.
C'est une patiente qui est originaire d'Algérie, de confession musulmane.
Elle est arrivée ici avec la police ?
Elle est arrivée ici avec la police, elle est repartie avec parce qu'ils ont besoin de l'auditionner de nouveau et c'est eux qui vont l'accompagner pour qu'elle aille prendre des vêtements chez elle et la ramener chez quelqu'un d'autre après. Je lui ai expliqué que mon rapport allait servir justement à ce que l'enquête se suive rapidement. On est dans la flagrance, donc ça dure 8 jours. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de la prendre en urgence, parce qu'on clôt toute l'enquête en 8 jours. Et donc ses parents sont âgés d'une 70 d'années, mère au foyer puisqu'ils sont une fratrie de 5 enfants. Son père était ferrailleur, mais elle décrit une enfance correcte, normale. Enfin, souvent, ils me disent normal. Bon, on estime que c'est normé, qu'il n'y a pas eu trop ou pas assez. Bon, malgré tout, elle décrit un réseau social dont elle est plus ou moins satisfaite. On arrive dans la sphère affectivo-sexuelle, où là, je vais demander un petit peu combien de partenaires elle a eu jusqu'ici, est-ce qu'ils ont été violents, ceux d'avant, est-ce qu'on est dans une répétition de quelque chose. Donc, elle a eu 4 partenaires intimes, elle a 34 ans. Tout s'est passé correctement jusque-là, elle est contente de sa vie, elle est ambulancière. Elle n'a pas fait d'études et elle dit qu'à 34 ans, elle est satisfaite d'où elle se trouve, elle est contente de son boulot, etc. Et là, donc, il y a l'auteur mis en cause qui arrive dans sa vie fin 2015. Et puis, elle s'aperçoit très très vite que ça va être compliqué, notamment compte tenu de la consommation qui a l'air très intense de cocaïne. Elle décide de l'aider à éventuellement s'en sortir. Au moment même où elle doit se faire opérer du dos pour une hernie discale, et elle lui dit, ça tombe bien, moi je me fais opérer là, si tu veux, toi tu vas en cure là, comme ça on est l'un à côté de l'autre, et on peut quand même se voir. Finalement, il reste qu'une semaine en cure, et là c'est l'élément déclencheur pour elle à la cessation de leur couple. Pour lui, ils étaient toujours en couple, alors que pour elle, non. Sauf que le monsieur, si... Après, je ne l'ai pas vu, hein, mais bon, d'après ce qu'elle raconte, et puis elle donne des éléments qu'elle ne peut pas inventer, à mon sens, s'il a vraiment une consommation de cocaïne aussi importante qu'elle le décrit, il est totalement déphasé, il est paranoïaque et possessif, dans une version quasi psychiatrique. Donc en fait, là, c'est à la base d'une sensation paranoïaque, où il lui a laissé moult messages indiquant que c'était une pute, qu'elle était en train de faire des passes à chaque fois, et donc il lui envoie 35 messages par jour. Et il a préparé le truc, il est venu avec une cagoule, des gants, une bouteille d'essence, jusqu'à chez elle, attendant qu'elle sorte à un moment particulier, etc. Il l'a aspergé d'essence, il a menacé avec le briquet. Je ne suis pas convaincue qu'il l'aurait fait, mais de toute façon, le traumatisme reste exactement le même, en fait. À partir du moment où il y a eu l'essence, qui en plus, avec sa composante olfactive, hein, ça fait 8 heures qu'elle sent l'essence. Je pense que ça va être quelque chose de très traumatique pour elle. Et elle dit avoir réussi à gérer ça pendant, je pense que ça a dû durer de 2 heures à peu près, si mes calculs sont exacts, en communiquant avec lui. Donc dès qu'il a menacé de l'allumer, elle lui disait « mais attends, on s'aime, on a prévu de faire un bébé ensemble, on peut pas s'arrêter là, on peut pas faire... » voilà. Elle est rentrée dans ça, ce qui n'était pas le plus simple à faire, hein, mais je pense que ça lui a clairement sauvé la vie, ou en tout cas sauvé le fait d'aller plus loin sûrement. S'il n'avait pas l'intention claire et nette de la tuer, je pense qu'il avait l'intention de lui faire plus de mal encore que ce qui s'est passé. Donc voilà, elle nous a raconté tout ça dans un effroi chronique, hein, tout au long de l'entretien avec... Elle s'est levée, elle avait besoin de marcher. C'était compliqué, mais encore une fois, c'est à 8 heures. Hein. C'est vraiment très très proche. Hein. Et elle a répété plusieurs fois qu'elle revoyait la scène. Il y a eu beaucoup d'accès de pleurs comme ça. Bon, dont elle ressortait assez, assez rapidement. Mais voilà, on est encore trop pris dans tout l'affect qui est très chamboulé. Je lui ai donné un autre rendez-vous le 26 septembre. Moi, j'ai besoin de la voir vraiment espacée de l'agression.
Et donc, la dame, elle est repartie avec le commissariat. Donc, elle a un prochain rendez-vous. J'ai discuté avec la dame. Je crois que le 26, de mémoire, c'est le 26 avec Isis. Parce qu'en effet, c'était trop tôt aujourd'hui pour faire le retentissement psycho. Et la dame, bon, bah, elle était. Voilà.
La dame, d'ailleurs, en partant, te remercie.
Bah ouais. Elle est restée beaucoup de temps ici, mais elle avait l'air un peu mieux, entre guillemets, que ce matin quand elle est arrivée. Et puis voilà, bah, je vais te laisser. Hein.
Et puis du coup, bah, je te dis à lundi.
Ça marche hein. Salut.
L'écoute de la parole de la victime, c'est le premier moment de reconnaissance. On la reconnaît comme étant un être humain dans une souffrance. Donc, je vous écoute veut dire j'essaie de vous comprendre. Et donc, je suis quelqu'un qui va être, non pas un pilier, mais en tout cas... un point d'ancrage pour vous, une possibilité d'ancrage. Donc, je vous écoute, c'est notre première façon de reconnaître la personne. La violence est passée, elle a été grave ou peu grave, mais en tout cas, c'est un moment qui s'est imprimé, mais qui est passé. Donc la personne, si elle se stabilise, peut dire que c'est fini, puisque je suis là à l'hôpital. Mais la menace plane toujours, elle est toujours là. Donc c'est l'intérêt de confier ensuite ces personnes aux associations qui vont les prendre en charge. Donc le suivi social, judiciaire, associatif, psychologique de la personne, il nous importe de le déclencher, parce que on part sur du long terme. Nous, on a fait les premiers soins. Bon, eh bien, la personne qu'on a reçue aux urgences médico-judiciaires ne va pas ressortir absolument guérie de ce passage. Donc, il y a d'autres intervenants. Et nous, on s'inscrit dans une chaîne.
Bonjour, docteur Salmona. Je viens de lire un de vos textes sur les traumatismes liés au viol et les mots que vous employez sont tellement justes pour ce qui me concerne que je désirais vous rencontrer. J'ai été violée à l'âge de 16 ans, j'en ai aujourd'hui 48 et je ne m'en sors toujours pas vraiment. J'ai une vie professionnelle satisfaisante, j'ai une fille de 13 ans qui va bien, je suis divorcée de son père mais nous avons retrouvé de bonnes relations. Mais de temps en temps, certaines choses, certains comportements de mes proches surtout, me font replonger. C'est comme si j'avais des mines à l'intérieur de moi et quelqu'un, par mégarde ou inattention, les activait. Un conflit avec mon frère a récemment réveillé cette douleur et c'est comme si une bombe avait explosé à l'intérieur de moi, les mots qui me sont venus il y a quelques semaines et que j'ai lus hier sous votre plume. Je me retrouve dans un état proche de la sidération, paralysé comme un lapin dans les phares de voiture et personne autour de moi ne comprend. Je suis trop compliqué, me regarde trop le nombril, etc. Il faut dire aussi qu'aucun des adultes autour de moi ne m'a aidé à l'époque. J'ai fait psychothérapie et analyse, j'ai bien débrouillé, je crois, pas mal de choses, mais la charge émotive est malheureusement toujours aussi forte. Il faut dire aussi que j'ai appris il y a un an ou deux, en interrogeant ma mère pour savoir pourquoi elle ne m'avait pas aidé, qu'elle ne m'avait pas cru. Elle pensait que je racontais des histoires parce que j'avais fauté. Je me suis retrouvée enceinte à la suite de ce viol et ai dû me débrouiller toute seule pour trouver une clinique pour me faire avorter. Et je n'ai vu personne pour en parler. Du coup, j'ai tout mis sous le tapis pendant des années, avec des rechutes périodiques et un mal-être général que je ne comprenais pas vraiment, même si je me doutais de son origine. Bref, aujourd'hui, je me sens dévastée à l'intérieur, une fois de plus, et je n'en peux plus de revivre toujours la même chose. Pourriez-vous m'accorder un rendez-vous en urgence ou bien me donner une adresse où je puisse trouver de l'aide rapidement? En vous remerciant de votre combat et de votre compréhension, bien sincèrement. Dès le lendemain. J'ai bien reçu votre mail et je vous remercie pour votre confiance. Je pense que je peux vous être utile. Il est possible de traiter la mémoire traumatique. Je peux vous recevoir. Le problème principal va être de trouver un créneau disponible pour un rendez-vous.
Muriel Salmona, vous êtes psychiatre spécialisée en psychotraumatologie et victimologie. Vous, Muriel Salmona, on dit qu'il faut mettre des mots sur la violence que l'on subit ou que l'on a subie, que les mots permettent de sortir du processus.
Oui, alors il y a deux raisons pour cela. Il y en a une première qui est sociétale en quelque sorte, c'est qu'il y a un véritable déni, une véritable loi du silence. C'est que la plupart des victimes, quand elles subissent des violences, elles n'en ont pas entendu parler, ou on ne leur envoie pas que ce sont des violences, elles sont seules, elles sont isolées, elles n'ont pas d'outils pour penser ces violences parce que la société n'en fournit pas ou très peu, ou voire même fournit des outils complètement pervertis. Où en fait tout est inversé et on va les mettre en cause, c'est tout ce qui est stéréotypes sur les violences, c'est la culture du viol par exemple, c'est l'inversion totale de la culpabilité, c'est-à-dire que c'est la victime qui est mise en cause. Soit elle ne dit pas la vérité, c'est faux, ou c'est pas un viol, soit c'est elle qui s'est exposée. Elle est responsable du viol parce que elle a pas fait ce qu'il fallait, elle s'est pas défendue, elle est sortie habillée de telle façon, etc. Et où, en fait, finalement, les femmes, quand elles disent non, ça veut dire oui, elles aiment ça, elles aiment la violence. Donc, en fait, la plupart du temps, les personnes se retrouvent colonisées par tout un discours ambiant qui va complètement retourner toute la situation et les perdre totalement. C'est comme dans un système totalitaire, c'est-à-dire tous les mots sont inversés, c'est comme le monde d'Orwell dans 1984. Donc si la société ne se représente pas la réalité, on ne peut pas demander aux victimes de pouvoir y voir clair, quoi, et de pouvoir mettre les bons mots. Et aussitôt que les mots représentent la réalité, ils sont beaucoup moins violents, bien entendu. Enfin, je veux dire, ils représentent une violence, mais ils ne sont pas violents en soi.
J'ai craqué il y a 4 ans, et sans comprendre vraiment très bien ce qui se passait, mais mon médecin généraliste, quelques années auparavant, m'avait dit que j'avais un problème de stress post-traumatique, ce qui m'avait semblé un peu dramatique à l'époque, en me disant que j'avais pas fait la guerre, donc j'avais mis de côté. Et puis, quand j'ai vraiment craqué, j'ai l'impression que je me suis désintégrée sur place. J'ai repensé à ce que m'avait dit ce médecin, et j'ai commencé à regarder sur Internet, stress post-traumatique, viol. Et puis, je suis tombée sur les écrits de Muriel Salmona, et tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, quelqu'un écrivait, décrivait exactement ce que je ressentais, ce que je vivais. Alors que je pensais que j'étais juste mal câblée, un peu folle. Et je comprenais pas très bien ce que je vivais ou ce que j'étais ou ce qui m'arrivait. Et là, tout d'un coup, ça prenait du sens et ça avait l'air d'être quelque chose de normal. C'est peut-être pas le bon mot, mais disons habituel dans ce genre de circonstances. Et je me suis dit, il fallait absolument que je la voie. Je lui ai écrit, elle m'a répondu et je l'ai vue.
Subir des violences extrêmes, justement, qui sont un non-sens absolu et qui ne sont pas représentables ni pensables, ça sidère, ça entraîne une sidération, donc un blocage du cortex, qui du coup ne permet pas de contrôler une réponse émotionnelle massive face à un danger. Et cette réponse émotionnelle, elle prend une telle ampleur, c'est un tel tsunami émotionnel qu'on pourrait en mourir. Et en fait, le cerveau, qui ne peut pas éteindre la réponse émotionnelle par une non-représentation, une compréhension ou une capacité à gérer ce qui est en train de se produire ou à trouver des solutions, va avoir comme seule possibilité de faire disjoncter le système pour isoler la réponse émotionnelle. Et cette réponse émotionnelle qui est isolée, c'est elle qui va entraîner tous les troubles psychotraumatiques. C'est-à-dire que, du coup, toute la mémoire de l'événement va être bloquée dans la structure à l'origine de la réponse émotionnelle, c'est ça qu'on appelle la mémoire traumatique, elle va pas être intégrée par l'hippocampe, par tout le système d'exploitation de la mémoire, et elle va rester comme ça, ancrée, hors temps, et c'est elle qui va envahir continuellement la victime, qui va être une véritable torture. Et en plus, la déconnexion aussi fait que les personnes sont déconnectées de leurs émotions. C'est ça qu'on appelle la dissociation traumatique. Donc elles perdent leur capacité émotionnelle. Et ce n'est pas elles qui renoncent à leurs émotions, c'est-à-dire qu'elles sont déconnectées par un processus de sauvegarde, un mécanisme neurobiologique qu'elles ne contrôlent pas. C'est ce que décrivent les victimes, c'est-à-dire qu'elles sont dans une sorte d'espace de survie, un peu comme des zombies, à avancer, mais sans être elles-mêmes.
J'ai été violée, j'avais 16 ans. Je suis tombée dans le coma où j'ai été droguée, alcoolisée, je ne sais pas très bien. J'ai rencontré, je ne sais même plus combien ils étaient, mais ils étaient plusieurs, que j'avais rencontrés en vacances. Et on s'était redonné rendez-vous. Et j'étais avec mon frère qui me surveillait, mon frère qui avait 2 ans de moins que moi, et qui se sentait responsable de moi en tant que garçon dans une famille méditerranéenne. Et puis, et même lui n'avait pas senti... une certaine l'agressivité latente qui se profilait, et donc il m'avait accompagné au début, puis il était reparti en se disant bon, tout va bien, ça va, ils ont l'air gentils. Et on était sur la plage et je sais pas ce qui s'est passé. J'étais baignée, je suis sortie de l'eau et j'ai eu un espèce de d'éblouissement, de flash, et puis plus rien. Vraiment, c'était très brutal. Et je me suis réveillée 5 heures plus tard, dans un petit coin de la plage, toute seule, à moitié habillée, avec juste 2 ou 3 images qui me restaient, et un sentiment de dégoût atroce, mais j'étais même pas sûre de ce qui s'était passé, quoi. J'ai dit à mon frère que je croyais qu'il s'était passé ça, mais que j'en étais même pas sûre. Et j'ai passé... Je n'ai jamais su ce qui s'était passé, je ne le saurais jamais sans doute, ça restait bloqué quelque part au fond de ma mémoire. Et j'ai juste ensuite mon corps qui a parlé à ma place, quoi. J'ai pas dit à mon père, j'étais en vacances avec mon père, parce qu'on avait des relations déjà très compliquées à l'époque. et qui s'énervait pour un rien, et que j'avais peur que si je lui dise, donc en bon méditerranéen, il avait un fusil pas loin, j'avais peur qu'il aille faire un carton et que je sois responsable ensuite de le voir en prison. Donc j'ai rien dit. Et puis, un mois plus tard, je me suis rendu compte que j'étais enceinte et que ça ne pouvait pas venir d'ailleurs. Et du coup, j'étais sûre de ce qui s'était passé. Et là, il a fallu que j'aie dit à ma mère ça. Et elle ne m'a pas aidée.
Qu'est-ce que vous lui avez dit ?
Que j'avais été violée et que j'étais enceinte. Et j'ai dû me démerder toute seule pour trouver une clinique qui m'accepte. J'ai passé la première année, c'était mon année de première. La première année, en gros, couchée sur mon lit à regarder les mouches voler au plafond. Et puis petit à petit, ben, la vie a repris ses droits. Et je suis partie ensuite loin de chez moi pour faire mes études, pour essayer de laisser tout ça derrière. Mais je l'ai enfermé quelque part un peu, mais ça ressortait périodiquement, je savais que c'était là.
Les victimes se retrouvent avec des conséquences très lourdes, gravissimes, sur leur santé mentale, leur santé physique, sur leur vie, sur leur capacité à nouer des relations. Sans avoir du tout de mots qui puissent donner une explication à ces conséquences. C'est-à-dire que du coup, elle se retrouve à ne pas pouvoir vivre, mais c'est comme si c'était elle qui n'était pas capable de vivre. Et mettre des mots en disant que voilà, ce que vous avez subi, c'est un crime, c'est une torture, ben, c'est normal que vous ayez ces conséquences-là. Alors d'un seul coup, ça éclaire tout ce qui leur est arrivé et ça donne un sens à tout ce qui leur est arrivé. Avoir subi des violences, c'est un des déterminants principaux de la santé. Avoir subi des violences dans l'enfance, c'est 20 ans d'espérance de vie en moins. Donc c'est un problème de santé publique majeur. Mais on n'a pas du tout la réponse qui est à la hauteur de ce problème de santé publique majeur.
J'avais souvent l'impression de marcher au bord d'un gouffre, au bord d'un abîme, et je savais que dans l'abîme, c'était ça qui était. Mais j'arrivais pas à le regarder toute seule, parce que j'avais peur de tomber dans l'abîme. Et bon, au bout d'un moment, comme ça allait pas bien, donc j'ai vu mon premier psy à 22 ans. Je lui ai dit ce qui m'était arrivé, la réaction habituelle. Parlez-moi de vos relations avec votre père, avec votre mère, enfin bon, les trucs habituels des psys. Mais jamais il rebondissait là-dessus pour essayer de s'attaquer aux problèmes véritables, quoi. Et des moments, j'ai oublié complètement, je l'ai mis vraiment dans un coin de ma tête sans plus y penser. Et puis tout d'un coup, il y avait quelque chose qui me revenait avec une force incroyable et qui m'obligeait à le regarder en face. Parce que j'ai eu quand même, tous les 6, 7, 8 ans, en gros, j'avais une grosse crise.
Qui se traduisait par quoi ?
Ben, j'ai pété un câble, une grosse dépression ou... Et plutôt le sentiment de voler en éclats à l'intérieur de moi, quoi, d'être fracturé en mille morceaux à l'intérieur de moi. Donc c'est pas vraiment, c'est pas une dépression. Tout le monde disait t'es déprimé. Je dis non, c'est autre chose. C'est pas une dépression. C'est plutôt le sentiment qu'on sait plus trop bien qui on est, quoi. Je savais même plus comment je m'appelais, vraiment au sens propre du terme, quoi.
C'est une déchirure de l'âme, quoi. C'est dur à expliquer. C'est quasiment incommunicable comme genre de douleur, sauf pour ceux qui l'ont vécu. C'est tellement profond. Ça touche à l'identité la plus profonde, quoi. Donc, je vous dis, il y a des moments où je me disais comment je m'appelle. Je savais même plus. J'avais l'impression d'être comme une vitre qui aurait pris un pavé dessus et qui était toute fissurée de partout et que le moindre petit coup dessus ferait tout écrouler, quoi. Et puis bon, après, je me reprenais et j'allais de l'avant, puisque c'est ce qu'on nous dit tout le temps de faire. Faut aller de l'avant. Donc j'allais de l'avant. D'autant plus que, encore une fois, dans mon entourage, au moment où c'est arrivé et après, absolument personne n'a voulu m'écouter. C'était trop dérangeant. Et donc, ils m'ont renvoyé plutôt, au contraire, à ma faiblesse intrinsèque. C'était moi qui étais... Je me plaignais tout le temps, c'était pour me rendre intéressante, j'étais égocentrique, je pensais qu'à moi, etc. Et j'ai fini même par le croire, j'ai fini par croire à ce qu'il disait, que j'étais effectivement égocentrique, que je ne pensais qu'à moi et que j'étais faible. Donc je redoublais d'efforts pour être forte.
Et aussi une chose très importante aussi à comprendre dans notre société et qui fait que vraiment les victimes sont totalement invisibilisées, particulièrement les enfants, c'est qu'une fois que vous êtes dissocié, vous n'avez pas d'émotion. Mais du coup, quand les victimes vont essayer de parler et qu'elles sont dissociées, elles vont parler en n'exprimant pas les émotions. Du coup, les personnes en face ne vont rien ressentir.
Donc, là, vous parlez par exemple concrètement de la police, par exemple.
La police, la justice. Et ça, ils l'entendent parce qu'ils savent que ça, ils le vivent continuellement. Donc, j'ai même un magistrat qui m'a dit, mais j'ai une femme victime de violence conjugale qui m'a décrit des scènes de torture. Mais comme elle avait l'air totalement indifférente à ce qu'elle me disait, je me suis dit que c'était pas si grave. Un magistrat. Vous savez, ces petites jeunes aussi qui ont subi des viols en réunion et qui sont complètement déconnectées. Police, le film, où on voit une petite jeune de 14 ans à qui on a imposé des fellations pour récupérer son téléphone portable. Des viols en réunion, enfin, avec des circonstances aggravantes, moins de 15 ans. Et puis elle est là, comme ça, l'air complètement à la masse. Et puis elle dit, mais les policiers lui disent... Tu te rends bien compte que c'est grave quand même ce qui t'est arrivé. Et puis ils lui font la morale, quoi. Tu ferais quand même que tu te rendes compte que voilà, c'est grave. Enfin, ils disent à une victime qui a subi des viols en réunion, il faudrait que tu te rendes compte quand même que c'est grave. Remue-toi quand même. Et puis comme fait, ils disent bon, mais alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que t'aurais fait pour un ordinateur portable? Et tout le monde de rire. On se moque, on humilie quelqu'un qui a subi les pires des viols parce qu'elle est dissociée. C'est-à-dire que du coup, la dissociation, ça fait que, bah, en fait, c'est pas si grave. C'est pour ça que la plupart des femmes qui sont aussi victimes de tentatives de meurtre, et du coup, personne n'arrive à avoir peur pour elles ou pour les enfants, c'est pas si grave, ou alors elle est débile. De toute façon, elle n'est même pas capable de se rendre compte que c'est grave. Donc tant pis pour elle, quoi. Ça génère du mépris, ça génère de la maltraitance, ou ça génère une certaine indifférence au mieux. Il y a les personnes qui peuvent exprimer leur souffrance, elles ne sont pas entendues. Et celles qui ne peuvent pas exprimer leur souffrance parce qu'elles sont dissociées, bah, sont bien entendu encore moins entendues. Enfin, je veux dire, c'est encore pire.
J'ai pas pu être moi-même. J'ai été obligée de me cacher de ce que j'étais, de qui j'étais, de mes souffrances, des trucs tordus que ça peut engendrer. Il fallait que je cache tous mes symptômes en permanence, parce que sinon je me faisais engueuler. Donc, oui, c'était le pire pour moi. C'est vraiment la double peine, quoi. C'est...
La première chose, c'est nommer ce qui appartient à la personne et ce qui ne lui appartient pas. De séparer. On fait un travail d'identification, on nomme, on fait en sorte que la personne ne soit plus seule avec ce qui lui est arrivé. On regarde, on nomme, on dit voilà, il s'est telle chose. On peut rassurer aussi la personne sur mais là, c'est normal que vous ayez réagi comme ça, c'est logique, c'est l'agresseur qui voulait que vous réagissiez comme ça, c'est lui qui a fait en sorte qu'il se passe ça. Donc, on remet tout à l'endroit, on re-regarde en fait le film de ce qui s'est produit, mais avec un regard qui n'est plus celui qui est imposé, c'est plus le scénario imposé par l'agresseur. C'est un vrai regard historique, en quelque sorte. Hein. Et donc, c'est tout un travail. On va aller rechercher la personne, ce qu'elle est réellement.
Alors, Marie, qu'est-ce que ça a déclenché chez vous, cette première écoute, ce premier rendez-vous avec Muriel Salmona?
D'abord, non simplement qu'on m'écoute, tout court, vu que c'était la première fois, en plus de 30 ans, qu'on m'écoute sérieusement et de sentir que la personne qui m'écoutait, donc... non seulement était là en m'écoutant vraiment, mais comprenait ce que je disais. Parce que sinon, j'étais tout le temps face à, justement, une incompréhension totale. Cette incommunicabilité est douloureuse. Parce qu'on se sent vraiment seul au monde, quoi. On est tout seul, vraiment tout seul. Et ça, c'est dur. Une des choses fondamentales... quand on est face à ça, Et une des choses les plus difficiles, mais les plus importantes, c'est de mettre les mots justes sur ce qu'on vit. Alors que, justement, tout l'entourage, toute la société renvoie pas les bons mots. Parce que on comprend plus rien. Déjà, on a plein de questions sur soi-même. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est aussi sensible? Pourquoi on est aussi compliqué? Et quand ensuite, toute la société, tout l'entourage vous envoie des mots qui sont complètement contradictoires avec ce que vous vivez, ben vous finissez par être complètement perdu, vous comprenez plus rien. Donc pour arriver à s'en sortir, c'est la première des choses, c'est d'arriver à remettre les mots justes sur les choses. Et moi par exemple, même encore maintenant, ça fait pourtant 4 ans que je suis en thérapie, et plus de 30 ans que c'est arrivé, et je me surprends encore une fois à dire, un peu moins souvent, mais ça m'arrive encore, de me dire « je me suis fait violer », alors que les bons termes sont « j'ai été violée ». Ce n'est pas, c'est pas vraiment la même chose, c'est même pas du tout la même chose. Donc à chaque fois, il faut faire attention, se reprendre parce que les mots justes, c'est fondamental.
Pour sortir de la violence, il faut reconnaître, il faut qu'il y ait une véritable reconnaissance de ce qui s'est joué, de ce qui s'est passé. Il faut que la personne ne soit pas seule. D'où l'importance d'avoir un discours qui ne leur impose pas. Aussi une sorte de pseudo-vérité, c'est ça qui vous est arrivé, c'est ça que vous vivez, c'est ça que vous ressentez, c'est comme ça que vous devriez faire ou ne pas faire. En fait, non, ce n'est pas vrai. Vous savez, c'est un peu aussi ce qui se passe aussi en médecine en général, où j'ai encore plein de patientes qui me disent qu'elles sont allées aux urgences, elles disent qu'elles ont mal, et on leur dit non, vous avez pas mal. Voilà. J'ai très mal, non, vous avez pas très mal. Une patiente comme ça avait une fracture du bassin. Ils n'ont pas voulu voir qu'elle avait, ils n'ont pas fait de radio, donc non, vous avez pas mal. Elle dit, mais je suis infirmière, c'est à peu près 9 sur 10. Non, elle est repartie sans radio, sans rien. C'est ça aussi.
Au moment où vous avez commencé à parler et que vous avez... Vous vous êtes autorisée à dire que vous aviez souffert, en fait, et que vous étiez aussi une victime, c'est ça qui a aussi changé beaucoup de choses?
Mais ça, j'ai mis très longtemps avant de réussir à le dire. Surtout que, encore une fois, dans ma famille, on passait son temps à me dire « arrête de te poser en victime, tu te plains tout le temps, t'es chiante ». Et donc, c'était vraiment difficile pour moi d'accepter le fait que j'étais une victime. Je voulais pas me voir comme ça, c'est vraiment assez dégradant, en quelque sorte. L'image qu'on a des victimes de violences sexuelles est tellement dégradée que j'arrivais pas à me dire que j'étais une victime. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter de dire ça.
Le psychotrauma, ça entraîne des atteintes neurologiques très importantes. Ça peut être jusqu'à 30% du volume de certaines structures essentielles qui disparaissent. Sauf que ça se répare. Il y a une neurogénèse. Il y a une neurogénèse que quand les circuits se remettent en place, que quand ça recircule, que quand le sens reprend le dessus.
Petit à petit, je commence à retrouver une unité de ma personne qui avait, en fait, je réalise maintenant, et plus le temps passe, plus je réalise l'ampleur des dégâts, que j'étais complètement explosée de l'intérieur, quoi, en morceaux, sans même m'en rendre compte, vraiment. Ce qui est encore très difficile aujourd'hui, c'est toujours accepter que ça aura été mon histoire. Voilà, je peux rien y changer. J'en aurais pris plein la gueule pendant 30 ans pour pas un rond. Et des fois, c'est pas facile, surtout quand on vieillit donc, et qu'on se dit qu'on n'a plus tellement de temps et que la majeure partie du temps, on l'a passé à se cogner la tête contre les murs plutôt que de profiter de la vie. Il faut arriver à accepter ça sans colère, sans amertume. Et donc, je travaille plutôt là-dessus, l'acceptation de mon histoire, quoi.
Qu'est-ce que ça aurait changé, Marie, d'être écoutée et prise en charge beaucoup plus tôt, après l'agression, après le viol?
Tout, tout. Ma vie aurait été complètement différente. Je ne me serais pas sentie aussi merdeuse, aussi seule, aussi coupable. Ça aurait tout changé.
Nanda, vous avez commencé avec Muriel Salmona. À parler de quoi la première fois, vous vous en souvenez?
Pas tellement. Je ne m'en souviens pas beaucoup. Mais ce que je sais, c'est que j'avais déjà parcouru les... Ça s'appelle flyer.
Oui, c'est ça, les brochures.
Les brochures. Ça, j'ai aimé parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans la salle, j'ai eu le temps de lire et j'ai senti que, avant de la voir même, qu'elle prenait beaucoup de temps avec les patients. Du coup, ça m'a rassurée parce que j'avais tellement de choses à dire.
Vous vous souvenez, vous, Muriel Salmona, de la première fois qu'Inanda est venue vous voir?
Ah oui, je me souviens très bien. Je me souviens à quel point tu étais en souffrance. C'était effarant.
Effrayant même. Je pense que c'était vers la fin de vie, quoi.
Ouais. Ah oui, comme si la mort était là, était imminente.
C'était il y a 4 ans, c'est ça?
Oui, il y a 4 ans. C'était au 2012, hein?
Oui, 2012.
Oui, ouais. Mais je suis arrivée vraiment en miettes. Donc, il fallait que mon médecin...
comprendre. Ouais. Puis petit à petit, on a abordé toutes les zones. Oui. Celles dont tu parlais pas. Et non, personne ne se préoccupait.
C'est ça. Personne.
T'étais seule, quoi.
J'étais seule avec ça. Donc, je peux venir. D'accord. Mon nom est Kinanda Kibasa Maliba. Il s'agit de mon témoignage de viol politique. J'ai été arrêtée le 26 août 90 sans qu'on me fournisse la raison. Pas de jugement. Prison centrale de Makala, à Kinshasa, pavillon de femmes, numéro 9. Je suis restée un an en prison et la vraie raison était purement politique, pour mon appartenance au groupe des 13 parlementaires. Au jour du premier interrogatoire, tout bascule. Le conseiller de Mobutu voulait savoir ce que je savais. Je ne savais rien. Ce que j'avais vu. Rien, je n'avais rien vu. 3 jours plus tard, on me dit que le président fondateur va m'interroger. J'ai pensé connaître Mobutu depuis si longtemps, qu'il aurait pour moi une oreille peut-être plus attentive. J'ai été interrogée tout le mois de septembre. J'ai du mal à y penser. Du mal à me souvenir. J'ai mal à ma mémoire. Mal dans mon corps. Ça se passe au palais de marbre de Mobutu, en Ngaliema. C'est lui qui reçoit. Mais ce n'est plus lui-même. C'est une bête brute. Une femme a osé lui résister. C'est en tant que femme qu'elle doit le payer. Couche-toi là. Tout ce que tu demanderas maintenant, tu l'obtiendras avec ton corps. Je me suis débattue de toutes mes forces. Il y a un mot pour ça, le viol. Mais c'est un mot froid. Qui ne dit pas le corps volé, qui ne dit pas la part de mort dans le corps vivant. On vit désormais avec une bombe à retardement sous la peau. Et cette bombe, on ne peut pas l'extraire. On vit avec un sexe dont on voudrait se séparer et que l'on porte en soi comme une excroissance morte. Ça a lieu quand les mains ont fait ce qu'elles ne devraient jamais faire à un corps de femme. La division, le dédoublement. On est cette chose qui subit, qui n'est pas soi, dont on refuse que ce soit soi. Et en même temps, on est cette personne réfugiée au plus lointain de là et qui observe. Et qui refuse et qui travaille à préserver sa part intacte malgré tout, contre tout. On n'oublie pas, on ne se reconstruit pas. Au mieux, on intègre et on fait avec. La fois suivante, J'étais ligotée, objet inerte, offerte. Je n'ai demandé qu'une chose là, en larmes. C'était de me laver. Il a refusé. Je devais rester sale, humiliée. À partir de ce moment-là, je suis devenue la chose de ses conseillers, des médecins. On venait dans ma cellule à minuit et on m'est ramené vers 5 heures du matin. Ce n'était même pas un plaisir pour eux, mais un devoir politique. Le viol était une stratégie politique. Tous les gens qui ont obéi à l'injonction des viols étaient liés au pouvoir. Les directeurs, conseillers, médecins et autres, jusqu'aux médecins légistes. Le viol pour avoir droit aux soins. Le viol pour avoir droit à la nourriture. Le viol pour avoir droit aux médicaments. Le viol pour avoir droit à la sortie dans la cour. J'ai perdu 3 enfants suite à ce viol parce que j'étais abîmée. J'ai eu mes enfants avec des cerclages. Alors, pour résister, j'ai utilisé les armes que j'avais. Mon intelligence, ma sagesse ancestrale. Face à la pression internationale, Mobutu a dû me libérer. Je me suis cachée, restant clandestine dans mon propre pays. Pendant 9 ans, j'ai fui en France où j'ai demandé l'asile politique en 90. Je n'ai jamais oublié. Jamais. Et aujourd'hui, je tente de vivre.
Voilà, c'est les émotions qui sortent, qui sortent, qui sortent et qui sont bonnes à sortir.
C'est. Je peux dire ça. Je n'ai jamais, jamais, et personne n'a jamais voulu entendre. Lolo anda ilenka yankata ile kiomba ngoma. 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 Lolo anda ilenka yankata ile kiomba ngoma ta ile. Kyombango manta ile, 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 kyombango manta.
Après le silence, avec Inanda, Marie, Dr Muriel Salmona, Dr Bernard Marc, Christophe Gesset, Isis Anafi. Merci à l'équipe médico-légale de Marne-la-Vallée. Merci au collectif Féministes contre le viol, à Mao et Lucie. Extrait du livre d'Éléonore Mercier, Je suis complètement battue. Prise de son Yann Frécy. Mixage Valérie Lavalard. Un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Marie-Laure Ciboulet pour la série documentaire. LSD.
regarder la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez mettre les mots, bibliographie, lien, nous podcaster pour réfléchir ou nous réécouter à l'hôpital, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Twitter. Et demain, troisième étape, les survivantes, sortir des violences faites aux femmes.